Amen, amen, amen. Restez en prière dans votre cœur, restez en prière à la maison. Que votre âme parle à notre Seigneur ce matin, que votre esprit parle à notre Dieu ce matin. Restez en prière. Restez en prière et parlez, conversez à Jésus. Parlez avec lui. Parlez avec lui et dites combien c'est magnifique ce qu'il a accompli. Dites combien c'est énorme ce qu'il a accompli. Dites combien c'est tellement triomphant, c'est tellement libérateur, c'est tellement fort ce qu'il a fait. Alléluia, que ton âme puisse dire encore à Dieu que notre Seigneur est grand, que personne n'a fait ce qu'il a fait. Il a renoncé à la gloire céleste et il est venu, il a revêtu l'être humain, il est venu sur la terre, naître comme enfant, naître comme chacun d'entre nous, venir sur la terre, marcher sur cette terre, venir pour témoigner que Dieu est vivant. Il est venu et il est allé jusqu'au bout dans sa mission, il n'a pas failli une seule fois, il n'a pas péché une seule fois. Il est allé jusqu'à la croix, il a donné sa vie, il a dit « personne ne m'oblige à faire cela, personne ne m'oblige à donner ma vie, mais j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de ne pas donner ma vie, j'offre ma vie parce que c'est à cause de ma vie, c'est le rachat du monde entier. Notre Seigneur a donné sa vie. Il a donné sa vie. Oh Seigneur, je te loue pour ce que tu as fait. Je te loue. Nous sommes encore en train de prier. Nous sommes encore en train de parler à Jésus. Nous sommes encore en train de faire descendre dans notre cœur la compréhension de ce que c'est. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Pourquoi? Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom. Je suis tellement reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ce que tu as accompli, Seigneur. Je suis reconnaissant, Jésus. Je suis reconnaissant. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton saint nom. Ton corps commence à réaliser. Ton esprit commence à réaliser. Mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Va plus loin. Commence à méditer sur cela. Commence à réfléchir sur cela. Commence à chercher ce qui est caché derrière ça. Qu'est-ce qui est derrière le fait que Jésus-Christ a donné sa vie et qu'il a racheté le monde, qu'il a racheté chacun d'entre nous, et qu'il est mort, il était mort à la croix, et qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Nous allons revenir sur cette histoire qui a marqué toute la terre, qui a marqué l'histoire de l'humanité, qui a marqué, c'était une sorte de tournant dans tout ce qui s'est passé, dans toute l'histoire de l'humanité qui n'est pas finie aujourd'hui, qui n'est pas finie aujourd'hui. C'était quelque chose qui n'est jamais arrivé. Quelque temps avant, il y a Lazare qui sort du tombeau. C'est la première fois qu'un homme sort du tombeau, la première fois. Mais là, c'était quelqu'un qui était à l'extérieur du tombeau qui appelait Lazare à sortir du tombeau. Et le pouvoir de cette personne qui était à l'extérieur faisait que quelqu'un, un être humain, depuis l'histoire d'Adam, sortait du tombeau. La mort était sur lui. Et à ce moment-là, Jésus l'appelle. Et Lazare sort. Lazare sort parce que Jésus l'a appelé. Mais là, mes amis, c'est celui qui a appelé Lazare qui est dans le tombeau. C'est celui à qui on a mis tout notre espoir. Vous savez, en 98, il s'est passé une histoire qui était vraiment impressionnante. En 98, une histoire qui n'est jamais arrivée dans toute l'histoire. Je vais vous embêter quelque temps. En 98, la France a gagné le mondial du foot. Pour la première fois! Pour la première fois! Et ils sont champions du monde! Champions du monde! Et on a entendu ça! On a entendu, on a tellement entendu. Pourquoi? Parce que c'était tellement fort l'aspiration d'un peuple, l'aspiration de quelqu'un qui veut être le meilleur au monde, l'aspiration de tout un peuple qui dit, bah, cette fois-ci, c'est nous. Cette fois-ci, c'est nous. C'est nous qui sommes les meilleurs, nous sommes champions du monde. Et on a entendu ça, pas seulement une année. On a entendu ça 2 ans, on a entendu ça 3 ans, on a entendu jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont regagné. Et on sait que c'est quelque chose. Ce qui est arrivé dans ce tombeau, j'aimerais qu'on puisse le réaliser d'une manière exceptionnelle. Parce que là, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on a fait sortir du tombeau, mais il s'est passé un événement, le pourquoi de la destinée de Jésus s'est accompli à cet instant-là. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes champions du monde. Aujourd'hui, nous pouvons le crier sur les toits. Nous sommes champions du monde à cause de lui. Aujourd'hui, nous pouvons le crier et ne pas s'arrêter. Et j'aime beaucoup embêter les gens autour de moi, dire que je suis champion du monde. Je suis champion du monde parce que Jésus, mon Seigneur est allé jusqu'au bout. Il a payé le prix. Et il est allé à la croix. La croix a fait de moi, a fait de toi, un enfant de Dieu. La croix a fait de chacun d'entre nous enfant de Dieu. Mais la résurrection fait de chacun de nous des disciples. Il fait de nous des joueurs. Il fait de nous des participants. Il fait de nous celui qui porte cette victoire qui était acquise à la croix. Nous allons lire le texte sur lequel nous et essayer vraiment de vous plonger dans toute cette histoire. Nous avons vécu, nous avons lu des passages le vendredi passé. Aujourd'hui, nous allons lire ce qui s'est passé le jour de la résurrection de notre Seigneur. Je lis dans Matthieu 28, et on va lire du début jusqu'à la fin de Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. venez et voyez où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte, avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceci après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouvernement l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La croix fait de nous des enfants de Dieu. La résurrection fait de nous des disciples. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Il dit, allez, allez et faites des disciples. Enseignez-leur, baptisez-les et parlez de ce qui s'est passé. Jésus a reçu quelque chose que personne n'a reçu à cause de ce qu'il a accompli. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu des clés qui ouvrent tout ce qui est fermé sur la terre. Jésus a reçu des clés qui ouvrent tout ce qui est fermé dans le ciel. Jésus a reçu le pouvoir d'amener le ciel au milieu de nous. Parce qu'il a dit lui-même, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il a reçu ce pouvoir de vous donner le royaume. Et il dit, allez. Faites des disciples. Le pouvoir que vous avez, c'est d'être disciple de Jésus-Christ. Le pouvoir que vous avez, c'est d'apprendre ce qu'il a accompli, l'appliquer sur votre vie et démontrer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ce pouvoir, c'est une force, c'est une puissance, c'est quelque chose que Jésus seul peut donner. C'est un pouvoir de vie et de mort. Dans le chant qui a été chanté tout à l'heure, c'était dit, il y a une guerre dans le tombeau. Et j'aimerais juste corriger quelque chose par rapport à ça. Il n'y a pas de guerre dans le tombeau. Il n'y a pas de guerre entre celui qui a créé le monde et la mort. Parce que quand Jésus vient, il n'y a pas de guerre entre lui et le pouvoir qu'ils ont. Le pouvoir que Jésus a est incomparable. On ne peut pas comparer le pouvoir que Jésus a par rapport à la mort. Tu ne peux pas comparer. Si vous voulez voir où est-ce que c'est quand Jésus revient sur la terre, c'est juste marqué, la bête fut prise. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat dans la mort. Mais imaginez juste, Jésus a le pouvoir de donner sa vie. Il donne sa vie. Et là, il est mort. Il est dans le tombeau. À ce moment précis, il y a le Saint-Esprit. Le moment où ils ont décidé, Père, Fils et Saint-Esprit, à un moment donné, ils ont décidé que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on donne le pouvoir à Jésus. C'est maintenant qu'on donne l'autorité à Jésus. C'est maintenant que Jésus va être celui qui portera tout ce qui a été promis sur la terre et dans le ciel. Jésus allongé, le Saint-Esprit vient. Il le sort juste de là. Sans parole, ce n'est pas écrit, sans combat, sans quoi que ce soit. Jésus, le Saint-Esprit vient et Jésus se lève de la mort. Il y a ce pouvoir que Jésus a reçu est disponible. Et c'est de cela que j'aimerais parler. J'aimerais parler de ce pouvoir de la résurrection, une force vivifiante qui est en Jésus-Christ. Jésus seul, avec cette force, Dieu va pourvoir à tout ce qui va arriver à la suite de l'humanité. Avec cette force vivifiante qui est en Jésus-Christ, ce pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses, Dieu va pourvoir à toute l'humanité et à l'histoire du ciel aussi, parce que c'est toute une histoire du ciel qui se déroule sur la terre. Nous aussi, comme disciples du Seigneur, il faut qu'on arrive à se connecter à ce pouvoir de Jésus. Vous savez que nous pouvons vivre toute une vie sans porter la puissance de cette résurrection. Nous pouvons vivre toute une vie à côté de ce que c'est la puissance de la résurrection. Et si nous vivons cela, nous passons à côté de ce texte-là. Quand Jésus il dit « Allez, allez, faites de toutes les nations », il parle de ce qu'il a reçu. Et nous, comme enfants de Dieu, nous ne sommes pas seulement enfants, mais nous sommes maintenant participants à l'œuvre de Christ. Et alors que nous pouvons passer à côté de tout cela. Alors comment on fait? Il faut une condition spécifique pour vivre la puissance de la résurrection. Vous pouvez avoir une délivrance, vous pouvez avoir une rédemption, mais vous n'aurez pas de rédemption sans délivrance. Vous pouvez avoir le salut, mais vous n'aurez pas de salut sans repentance. Vous pouvez avoir la bénédiction, mais vous n'aurez pas de bénédiction sans vivre la loi du royaume, donner et recevoir, pas acheter et vendre, donner et recevoir. Vous voulez la bénédiction naturelle? La bénédiction, c'est de donner d'abord. C'est comme ça que vous déclenchez quelque chose qui se passe dans le ciel. Vous voulez être guéri? La guérison ne se passe pas juste comme ça. La guérison vient parce que la foi est activée, parce qu'il y a une foi qui va enclencher le pouvoir de Dieu pour te guérir. Alors la guérison viendra. Vous voulez le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne viendra pas juste comme ça sur votre vie. Le Saint-Esprit viendra parce que vous l'avez demandé. Votre cœur a désiré le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit vient sur votre vie. Il n'y a pas... Tout ce que Dieu a préparé d'avance, il y a une manière de l'avoir. Il y a quelque chose de spécifique. Il faut faire quelque chose pour que ça vienne dans notre vie. De la même manière, la puissance de la résurrection doit venir dans notre vie. Doit être quelque chose qui anime notre vie. Doit être le centre de ce que nous vivons. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est aussi vaine. Sans la puissance de la résurrection, la vie chrétienne est zéro. Zéro, zéro. On ne pourra jamais démontrer le ciel sur la terre sans la puissance de la résurrection. Il nous faut nous connecter à la puissance de la résurrection. Dans Philippiens 3, 10, c'est écrit « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. L'apôtre Paul avait une visée. L'apôtre Paul dit, de toute façon, moi, je vivrai la résurrection des morts. C'est ça, sa visée. Il dit, c'est ce que je veux vivre. De la même manière, chacun d'entre nous a entendu ce que Jésus a dit. Moi aussi, je veux vivre ça, ce que Jésus a dit. L'apôtre Paul, lui, il s'est dit, voilà, je vais vivre absolument cela. Comment il a fait, l'apôtre Paul? Parce qu'il y a beaucoup de déclarations de l'apôtre Paul concernant le royaume de Dieu dans la Bible. Il y a beaucoup de démonstrations de l'apôtre Paul concernant la puissance de la résurrection. Quand vous lisez l'apôtre Paul, vous savez qu'il n'avait pas peur de la mort. Il n'avait pas peur de la mort. Il était au contrôle quand il s'agit de la mort. Il n'avait pas peur des gens. Il n'avait pas peur de dire qui est Jésus. Parce que il avait une visée. La puissance de la résurrection, ce n'est pas quelque chose qu'on prie pour l'avoir. Ce n'est pas quelque chose que tu as juste comme ça. La puissance de la résurrection, il faut payer le prix pour l'avoir. Ce n'est pas par la proclamation de la parole, ce n'est pas parce que j'ai appris la parole, ce n'est pas parce que je prie, il faut payer le prix. Payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Le prix de la résurrection, c'était la croix. La croix. La croix était le prix de la résurrection, mais la résurrection était le verdict. Le verdict par rapport à la croix, par rapport à la mort, par rapport au péché, par rapport à ce qui était. Il faut payer le prix. Chacun d'entre nous, nous pouvons être libres de tout ce qui nous tient sur la terre. De toute frustration, tous les pièges du diable, tout ce qui est difficile, toutes ces choses qui nous empêchent d'être épanouis et de vivre le plan de Dieu pour nous, chacun d'entre nous, nous pouvons passer par-dessus tout cela à cause de la puissance de la résurrection. Éphésiens 1, 17, « Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Vous savez que j'aime beaucoup Éphésiens 1, 17. Je l'ai déjà prié des centaines de fois dans notre église. Mais l'apôtre Paul, avec la visée de vouloir vivre la résurrection, il était en train de prier pour l'église d'Éphèse. Il était en train de prier pour l'église d'Éphèse, et moi aussi, et peut-être chacun d'entre vous, vous avez prié pour l'église de réveil, vous priez pour votre famille, vous priez pour que la puissance de la résurrection vienne. Et comment est-ce qu'il fait l'apôtre Paul pour faire en sorte que toute l'église comprenne qu'il y a une visée dans la vie, qui a une possibilité de vivre ce que c'est la puissance de la révélation de la résurrection dans la vie des chrétiens. D'abord, il l'appelle la grande puissance. Cette puissance, c'est la puissance de la résurrection. C'est une puissance, il dit, c'est une puissance infinie. Puissance infinie. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Continuellement en train de se manifester, en train d'agir. Au verset 20, c'est écrit comme ça, cette puissance qui est en train de se manifester tout le temps. Il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. C'est en train d'agir sans s'arrêter, puissance infinie. Il dit que c'est un héritage. Cet héritage, c'est une puissance glorieuse. Il dit que c'est une puissance glorieuse, il dit que c'est une puissance infinie. Et c'est l'héritage de chaque disciple. La visée de l'apôtre Paul, c'est que chacun d'entre nous, nous vivons la puissance de la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est notre héritage. Nous aussi, nous pouvons dire, nous sommes champions du monde. C'est ce qui est prévu pour nous. La puissance de résurrection définie comme l'infinie grandeur de sa puissance, vous avez besoin de voir, de comprendre que c'est parce que vous avez été éclairé que vous pouvez le comprendre. Si vous n'êtes pas éclairé, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie pour les gens d'Éphèse. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Vous avez besoin d'être éclairé intérieurement. Vous avez besoin de comprendre réellement comment est-ce que ça se transfère, comment est-ce que ça s'applique. C'est quoi exactement cette puissance glorieuse, cette puissance infinie? Comment accéder à cela? Un jour, il y a un serviteur de Dieu, il s'appelle John D. Lake. C'est un missionnaire et c'est un des premiers missionnaires qui venait du Canada, mais qui était en Afrique. Et en Afrique, il s'est passé, en Afrique du Sud, il s'est passé presque la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'était une maladie tellement bizarre parce que ça se transmettait par la salive et le toucher. Et John G. Lake, comme envoyé de Dieu là-bas, il avait une compassion pour les malades parce que les gens mouraient dans les quartiers. Et les gens, les chrétiens n'allaient plus dans les quartiers, dans les bas quartiers. Pourquoi? Parce que, bah oui, vous priez pour les gens, vous touchez les personnes, vous vivez avec eux, parce que c'est vraiment, ça se transmet exactement. Aujourd'hui, on met des masques, mais ça se transmettait à l'époque de manière vraiment difficile. Mais John D. Lake, c'est l'apôtre, entre guillemets, de ce que c'est la guérison par la foi. C'est qu'il, c'est une des personnes qui a marqué toutes les générations qui a démontré ce que c'est la puissance de la résurrection. Il est allé dans les quartiers et il priait pour les gens, il les prenait dans les bras, et il vivait avec eux. Et les gens qui étaient morts, ils sont ressuscités. Par sa prière, il a relevé des gens de la mort et il a guéri des gens. Et il a vécu cela pendant plusieurs mois, tellement ça a touché les dirigeants d'Afrique du Sud, ils sont allés voir ce que c'est. Pourquoi quelqu'un arrive, ne tient pas compte de ce que c'est une maladie, mais quelqu'un est allé et est en train de faire des résurrections et est en train de guérir des malades. Et ils ont pris ce qu'il y avait sur ses mains, ils ont fait des analyses sur sa vie. Et le résultat de cette analyse, c'est que les maladies qui affectaient tout le monde, peu importe qui tu es sur la terre, ne pouvaient pas avoir d'effet sur le corps de M. John Dilek. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils ont fait des études scientifiques comme quoi la maladie ne pouvait pas avoir d'effet parce que son corps était bizarre, différent. Pas comme chacun d'entre nous. Quand vous atteignez ce niveau-là, quand vous atteignez le niveau où la puissance de la résurrection habite votre corps, habite votre vie, habite chacun de vos gestes, ça change la donne, ça fait la différence. Et c'est impressionnant parce qu'ils ont essayé de chercher. Et en cherchant, ils ont prouvé que la vie de John Dilek, le corps de John Dilek, était beaucoup plus fort que la maladie. Et c'est pour ça qu'il a pu prier pour les gens. Quand nous espérons vivre quelque chose de puissant de la part de Dieu, notre focus, c'est un peu de vivre le ciel sur la terre. Mais alors Jésus lui dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dieu a placé quelque chose en nous pour démontrer le royaume de Dieu, pour vivre le royaume de Dieu. Si nous lisons 1 Jean 3:9, c'est marqué, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il y a une semence de Dieu en nous. Dans 1 Corinthiens 15:35, c'est écrit comme ça, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? » Verset 36, « Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Nous portons en nous quelque chose de Dieu, une graine de Dieu, une semence de Dieu. Mais Dieu a fait les choses qu'il y a une loi qui régit tout ce qui se passe sur la terre. Il y a des processus, il y a des manières de faire. Ce que dit 1 Corinthiens 15, c'est que ce que tu sèmes dans la terre ne peut revenir à la vie sans qu'il passe par la mort. Cette loi-là, Jésus l'a démontrée. C'est ce que Jésus a démontré. Il était mis en terre, passé par la croix, mis dans le tombeau. Il n'a pas connu la corruption. Il est revenu à la vie. Mais le processus de ce qui est dit dans 1 Corinthiens, c'est que c'est cette semence que Dieu a placée en chacun d'entre nous. Pour pouvoir vivre la puissance de la résurrection, nous qui sommes sur la terre, nous n'échapperons pas à cette loi-là. Il faut que notre vie soit semée. Pour pouvoir vivre tout ce que Dieu a préparé d'avance, sans passer par ce processus. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement... Il y a tous les repas rapides et il y a tout ce qui... Tout va tellement vite. Mais Dieu veut que nous passions par tous les processus qu'il a fixés comme loi sur la terre. Moi, j'aimerais vivre la puissance de la résurrection dans ma vie. J'aimerais être semé dans l'église de réveil. J'aimerais être un témoin quand je suis dans cette ville. J'aimerais être semé sur la terre, passer par ce processus-là pour pouvoir démontrer ce que c'est la puissance de Dieu qui est possible. Quand je lis au verset 38, dit « Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Au verset 42, « C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable. Il est ressuscité glorieux. Il est semé faible. Il est ressuscité plein de force. Il est semé corps naturel. Il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Notre but, c'est ça, communiquer la vie. Et comment on fait? Il faut semer notre vie. Il faut que notre vie soit complètement dévouée à Dieu. Et quand c'est le cas, tout ce qui est corruption dans notre vie, tout ce qui est corruption dans notre vie, je ne sais pas si vous avez besoin que je détaille ce que c'est. Mais pour vivre la puissance de la résurrection, j'aimerais donner à Dieu tout ce qui est corrompu dans ma vie. Pour donner le pouvoir à Dieu de me remplir de sa puissance, pour parvenir à la résurrection, tout ce qui est corruptible deviendra incorruptible. Tout ce qui est méprisable en moi, j'aimerais semer cela. Tout ce que j'aimerais tuer cela. J'aimerais tout ce qui me conduit à la tentation, tout ce qui me conduit au péché, tout ce qui corrompt ma vie, tout ce qui salit mon corps, tout ce qui salit mes pensées, tout ce qui salit ma langue, tout ce qui est méprisable en moi. Il faut que ce soit semé et passe par le processus. Ce qui est méprisable deviendra glorieux. Ce qui est faible en moi, cette peur de parler de Dieu, cette peur de parler de qui est Jésus-Christ, ce qui est faible en moi, ce qui n'arrive pas à marcher dans la sainteté tous les jours de ma vie, ce qui empêche que je sois plein de force, je dois le semer pour pouvoir vivre la puissance de la résurrection. Ce qui est naturel deviendra spirituel en moi. Ce qui est un être vivant deviendra un être vivifiant. Le programme de Dieu, quand il sera rempli de la puissance de la résurrection, toutes les personnes qui croisent ta vie, tu les vivifies. C'est ça le programme. Nous allons devenir une église vivifiante. Nous allons devenir une église des disciples qui vivifient la ville, qui vivifient le pays. Le processus est simple. Passer, il faut que ma vie soit semée. Il faut que je sois dévoué à Dieu, le plus dévoué possible. Vous pouvez avoir un don et servir dans l'église. Vous pouvez être chanteur, guitariste, vous pouvez avoir un don, servir dans l'église, mais ne pas être dévoué, ne pas être semé, ne pas passer par le processus de mourir à soi-même pour que Dieu t'utilise. Sans passer par ce processus, ça ne sert absolument à rien de faire quoi que ce soit. Parce que Dieu fera quelque chose seulement par ce processus. C'est le seul moyen pour chacun d'entre nous pour servir, vivre la puissance de la résurrection dans le royaume de Dieu, passer par ce processus. C'est difficile de faire en sorte que mes voies, je renonce à mes voies, je vis les voies de Dieu. Je renonce à ma volonté, je vis la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très difficile. Théoriquement, c'est facile à dire, mais l'appliquer dans notre vie, c'est vraiment très difficile. Cela produit la mort en nous. Si vous ne sentez pas que ça produit la mort en vous, c'est que ça ne se passe pas. Il n'y a pas que la mort. Il y a aussi des bénéfices. Le bénéfice, c'est la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul appelle cela les dons ineffables. C'est des dons qu'on ne peut ni comparer, ni évaluer. On ne peut pas estimer ce que ça impacte notre vie. L'apôtre Paul était tellement rempli de cette connaissance de ce que c'est la puissance de la résurrection que les écrits qu'il a écrits impactent encore notre vie aujourd'hui. Quand vous, je ne sais pas si vous avez vu le film de Andrew Hayat, le titre c'est Apôtre Paul, et ça décrit un peu la vie de l'apôtre Paul. J'aimerais juste parler de la fin de ce film. Dans ce film, l'apôtre Paul est comme prisonnier, et comme en semi-prisonnier, on ne sait pas exactement, mais les profs, il y en a qui disent il était prisonnier, il y en a qui disent en semi-liberté, mais l'apôtre Paul arrive à la fin de sa mission. Il y a eu les voyages de l'apôtre Paul, et là, il est à Rome. Et dans le film, l'enfant de la maison est malade. Et l'apôtre Paul, comme serviteur de Dieu, prie pour l'enfant, et l'enfant est guéri. L'enfant est guéri, la famille est touchée. Et c'est dans la maison d'un chef romain. Mais ce qu'il y a, c'est que l'apôtre Paul arrive à la fin de sa vie. Il a compris qu'il a fini sa mission. Il a dit, dans ses lettres, l'apôtre Paul dit, « Il est préférable pour moi de loin d'aller rejoindre le Seigneur, mais pour vous, je reste. Hein? » À cause de vous, il dit, « Je reste. » L'apôtre Paul était au contrôle de ce que c'était la mort. Il savait exactement où est-ce qu'il en était. Il avait le droit de donner sa vie et de la reprendre. Il avait le droit de semer sa vie et de la reprendre. À la fin de ce film, c'est le même gars dont la fille est guérie par l'apôtre Paul qui tue l'apôtre Paul. C'est hyper fort, le film. À la fin, tout simplement, tu vois tout l'exploit de l'apôtre Paul et tout d'un coup, tac, il met la tête et paf, il est tué sur le... La même personne qui l'a sauvé, il lui a enseigné ce que c'est la puissance de la résurrection. Et c'est dans la même famille, c'est lui qui prend la décision. Cette fois-ci, c'est bon. J'ai fini ce que j'ai à faire. Tu peux exécuter la sentence romaine, enlever la vie. L'apôtre Paul meurt comme ça. Jésus a dit, personne ne m'enlève, ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Chacun d'entre nous, nous pouvons vivre ce que c'est la puissance de la résurrection. Nous avons le pouvoir d'être semés et de passer par le processus de la mort. À l'image de l'apôtre Paul, vous pouvez être au contrôle de ce que c'est l'adversité. Le dernier adversaire qui va être tué, c'est la mort. Mais vous pouvez être dans le contrôle de cela, dans la situation que nous vivons aujourd'hui. La manière dont Dieu nous aide pour faire cela, c'est à travers ce que c'est la puissance de la résurrection qui remplit nos vies, qui régit nos vies, qui alimente notre vie. Le plan de Dieu pour nous, c'est d'être rempli de son esprit pour faire sa volonté. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême. C'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Philippiens 3, 8. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme une des ordures afin de gagner Christ. Vous pouvez aussi gagner Christ. Vous pouvez gagner la puissance de la résurrection. Mais la seule manière de le vivre, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je considère tout cela comme de la boue pour gagner Christ. Je renonce à ma volonté. Il faut que ce qui est corruptible en moi devienne incorruptible. Il faut que ce qui est méprisable en moi soit semé et devienne glorieux. Il faut que ce qui est faible en moi soit semé et devienne plein de force. Il faut que ce qui est naturel, l'homme pécheur, devienne l'homme spirituel. Il faut que ce qui est être vivant devienne un esprit vivifiant. J'arrive à la fin du message et j'aimerais que tu regardes à ta vie. À la maison, regardez à votre vie. J'aimerais que tu puisses faire le bilan. Où est-ce qu'on est la puissance de la résurrection dans ta vie? Il y a des situations d'emprisonnement partout sur la terre et sur notre vie. Et ces situations sont devant nous. Mais maintenant, c'est le temps où le Saint-Esprit vient dans ce tombeau-là. Le Saint-Esprit vient et il n'y a pas de combat entre la mort et la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit vient et Jésus se relève. C'est ce qui est possible pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis exactement. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais j'aimerais pouvoir prier avec toi pour que le Saint-Esprit vienne sur ta situation. De la même manière qu'il est venu sur Jésus, mort dans le tombeau. Il faut que tu vois ta situation. Il faut que tu saches exactement où est-ce que tu en es. Le but de Dieu, c'est d'accomplir ce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Si vous avez l'esprit qui était en Jésus-Christ, vous avez tout pouvoir. Tout pouvoir. Alors voyez maintenant votre vie. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble, nous allons demander que l'Esprit du Seigneur vienne sur vos situations et tout simplement, sans combat, mais tout simplement ressuscite votre vie, ressuscite votre destinée, ressuscite votre mariage, ressuscite votre état de faiblesse. À chaque fois que tu ne peux pas ne pas pécher, Dieu vient, l'Esprit du Seigneur vient sans combat. Il vient avec qui il est. Il vient tout simplement te sortir de là. Là où ta destinée est arrêtée, l'Esprit du Seigneur vient et t'arrête. Entre dans ta vie et ta destinée continue. Commencez juste à soumettre votre vie à Dieu. Seigneur, moi, je soumets mon cœur, je soumets ma vie, je viens devant toi, je m'abandonne. Ta volonté contre ma volonté, tes voies contre mes voies. J'abandonne toute chose, le contrôle. Amenez votre mariage à Dieu. Amenez votre destinée à Dieu. Amenez ce qui est mort en vous, en Dieu. Ce jour, c'est le jour de la résurrection pour les enfants de Dieu. Le jour où l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui était en Jésus-Christ, qui est la puissance de la résurrection, vient sur notre vie, notre destinée et le ramène. Je prie au nom de Jésus-Christ maintenant pour l'Église de réveil. Je prie pour la destinée de cette Église. Je prie pour que l'Esprit du Seigneur vienne et bouleverse nos vies et change notre compréhension, ouvre notre intelligence et vienne nous amener dans la présence de Dieu, nous conduise, nous instruise et nous convainc de péché, nous rappelle ce que le Père a fait dans notre vie. Je prie pour les dirigeants de notre Église. Je prie pour que chacun d'entre eux soit rempli de l'esprit de sagesse, de la connaissance du Fils de Dieu, qu'ils soient tous illuminés, qu'ils soient tous remplis de l'espérance grande et infinie, cette espérance glorieuse, qu'ils soient tous remplis de la puissance de la résurrection. Je prie pour les enfants. Que le sang de Christ soit sur eux, que leur destinée soit protégée. Je prie pour que l'Esprit de Dieu vienne sur leur vie et les garde, que des anges soient envoyés devant eux et qu'ils marchent vers la Galilée, que leur Galilée soit sur leur chemin, que Dieu les conduise, que Dieu donne rendez-vous à chacun d'entre eux. Je prie pour chaque célibataire qui espère le plan de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, je demande que l'Esprit du Seigneur descende sur vos vies. Tout ce qui est mort en vous, au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur ressuscite. Ressuscite votre destinée, ressuscite votre cœur, ressuscite votre foi. Que votre foi recommence au nom de Jésus. Que la puissance de la parole de Dieu soit ranimée dans nos vies. Que notre foi soit agissante. Que l'être que Dieu a créé devient un être vivifiant dans cette Église. Seigneur, je prie pour les aînés de cette Église. Je prie pour que leur espérance demeure. Je prie pour que là où leur foi s'est arrêtée, là où ils se sont endormis, là où ils ont juste laissé aller, au nom de Jésus, que l'Esprit du Seigneur vienne et ressuscite toute chose, toute relation entre les générations. Je prie pour que Dieu bénisse vos descendants, que l'Esprit du Seigneur vienne sur vos descendants, que l'Esprit du Seigneur déclenche le plan de Dieu pour eux. Priez là où vous êtes. Priez le Seigneur. L'Esprit du Seigneur, vous ne l'aurez pas si vous ne le demandez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous avez entendu, il n'y a pas de supposition. Demandez l'Esprit du Seigneur. Pour recevoir, il faut demander. C'est Kéréran Dalana Ate Kéré. L'Esprit du Seigneur agit maintenant, ici et à la maison. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans nos vies maintenant. Ce qui a été accompli il y a 2000 ans, l'Esprit de Dieu vient et l'accomplit au milieu de nous. C'est notre résurrection aujourd'hui. C'est à nous. C'est notre tour. C'est Kerebiri Andalanahai. Je te remercie, Père. Je te remercie pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton plan pour chacun d'entre nous. Seigneur, ma foi, ma prédication est vaine sans la puissance de ta résurrection. Si tu ne démontres pas ta puissance, Seigneur, ça ne sert à rien de prêcher. Si tu ne démontres pas ta puissance dans notre vie, ça ne sert à rien de te suivre. Ça ne sert absolument à rien. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es vivant pour accomplir tes promesses. Merci parce que tu es vivant au milieu de nous. Garde ces choses dans mon cœur, garde ces choses dans les cœurs de chacun d'entre nous. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Amen, amen. Amen, amen.